Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée Chemin de vérité. Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous continuons notre étude sur l'Église en parlant de son unité. Une examination de l'Église telle qu'elle est présentée dans la Bible ne serait pas complète sans parler de son unité. Plusieurs passages enseignent de la manière la plus claire que le Seigneur a établi une seule Église. En effet, dans le premier passage du Nouveau Testament qui emploie le mot « Église », Matthieu 16, verset 18, Jésus dit « Sur ce roc, je bâtirai mon Église ». Faut-il souligner que Jésus dit « Mon Église » et non pas « mes églises ». Plus tard, employant l'image d'un berger et ses brebis, Jésus a fait ressortir d'une manière spéciale l'unité qui serait produite par son œuvre. Il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Les brebis de cette bergerie étaient les disciples d'origine juive. Celles qui n'étaient pas de cette bergerie étaient les non-juifs qui se convertiraient et deviendraient ses disciples par la suite. Or, malgré l'hostilité qui existait entre ces deux groupes, Jésus dit qu'ils formeraient un seul troupeau, avec un seul berger à leur tête. Jésus enlèverait la division. L'apôtre Paul parle de ce fait en Éphésiens 2. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Éphésiens 2, versets 14 à 16. Et si quelqu'un n'est pas sûr du sens de la phrase « un seul corps », Paul l'a déjà expliqué au chapitre 1, versets 22 et 23, où il dit que Dieu a donné Jésus pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Le fait qu'il n'y avait qu'une seule Église est souligné encore en 1 Corinthiens 12, verset 13, où Paul écrit « Nous avons tous, en effet, étaient baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Oui, la Bible parle d'une seule Église. Mais aujourd'hui, nous sommes habitués à voir une multitude d'Églises. Chacune se distingue des autres par un nom particulier. On parle d'Église catholique, protestante, anglicane, réformés, orthodoxes, méthodistes, baptistes. Et là encore, il y a des dizaines de variétés de baptistes. Baptiste méridional, baptiste conservateur, baptiste libre, baptiste primitif, baptiste fondamental, etc. Il y a les églises pentecôtistes, luthériennes et presbytériennes. Et encore plusieurs sortes de pentecôtistes, de luthériens ou de presbytériens. Il y a l'église nazarienne, l'Église adventiste, l'Église des saints des derniers jours, l'Église du christianisme céleste, l'Église universelle du royaume de Dieu, l'Église de l'unification, les témoins de Jéhovah, l'Église apostolique, l'Église Foursquare, la chapelle des vainqueurs, les soldats de Dieu, l'armée du salut, l'Église Shekinah et bien d'autres. Cette variété de noms reflète une variété d'organisations et formes d'organisation, une variété de pratiques et de croyances. On ne peut nier qu'il y a de la concurrence, parfois amicale et parfois non, entre ces différents groupes. On ne peut nier que ces groupes se contredisent très souvent dans ce qu'ils enseignent. On ne peut donc nier que, surtout pour le non-croyant, cette grande variété d'églises prête à la confusion. Et pourtant, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne voient aucun mal dans l'état divisé du christianisme. Ils ne veulent même pas admettre qu'il y a de vraies divisions. S'il faut en parler, ils préfèrent le terme diversité plutôt que division. Ils aiment à dire que nous adorons tous le même Dieu, que nous croyons au même Jésus. Ils essayent de faire croire que tous ceux qui croient en Jésus sont, en réalité, déjà unis, et que les différences ne sont que très superficielles. Ils présentent parfois ces différences comme étant des différences de style ou de goût, et vont jusqu'à remercier Dieu de ce que chaque personne peut trouver une communauté qui lui convienne. Quand la Bible parle d'une seule Église, il s'agit, selon ces personnes, de l'Église universelle et invisible, composée de tous ceux qui, quelle que soit leur dénomination, sont sincères dans leur foi au Christ et donc agréables à Dieu. Il y a une part de vérité dans cette dernière phrase, mais tout mensonge contient un peu de vérité. En fait, il est vrai que l'Église est composée de ceux qui, partout dans le monde, sont sauvés par Jésus-Christ. Acte 2, verset 47 dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et nous avons vu tout à l'heure en Éphésiens 2, verset 16, que c'est en un seul corps que les hommes sont réconciliés avec Dieu. Mais ceux qui veulent défendre l'existence de toutes les différentes dénominations comme étant normales font deux erreurs fondamentales. La première est de supposer que toutes ces églises enseignent ce que la parole de Dieu dit que l'homme doit faire pour être sauvé. En réalité, elles se contredisent les unes les autres sur ce point, et la plupart contredisent aussi ce que dit clairement la Bible. Or, si tel est le cas, je pourrais très bien suivre l'enseignement que je reçois dans une dénomination sans jamais me conformer aux conditions de salut fixées par le Seigneur lui-même. Je peux être un membre fidèle d'une dénomination, sincère dans ce que je fais, parce que faisant de mon mieux pour obéir à l'enseignement que je reçois, et pourtant, je peux ne pas avoir été ajouté au corps de Christ. Je peux ne pas avoir été sauvé. C'est exactement ce que Jésus a enseigné en Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Encore, en Matthieu 15, versets 9 et 14, Jésus dit « C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Il y a un deuxième problème fondamental dans l'idée qu'il n'y a pas de mal dans l'existence d'une multitude de dénominations. C'est qu'il ne suffit pas, pour être unis, affirmer simplement que nous le sommes. Au lieu de décider de nous-mêmes que nos différences n'ont pas de grande importance, nous devrions chercher d'abord à voir ce que Dieu en pense. En effet, la Bible a quelque chose à dire concernant la sorte d'unité que Dieu désire parmi ses enfants. Considérez par exemple la prière que Jésus a faite en Jean 17, peu de temps avant son arrestation et sa mort. Après avoir prié pour ses apôtres, il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. » Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus compare ici l'unité des chrétiens à l'unité qui existe entre lui et son Père céleste. Or, l'unité du Père et du Fils ne cache pas un certain nombre de points de désaccord. Jésus dit en Jean 7, versets 16 et 17, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Pensez aux églises de nos jours. Certaines baptisent les bébés, et d'autres refusent de le faire. Certaines baptisent par aspersion. D'autres disent que l'aspersion n'est pas un vrai baptême. Certaines adorent le dimanche. D'autres affirment que les vrais serviteurs de Dieu observent le sabbat ou samedi. Certaines prétendent parler en langue et affirment que si l'on n'a jamais parlé en langue, on n'a pas l'Esprit de Dieu. D'autres disent que le vrai parler en langue n'existe plus. Certaines enseignent que le chrétien fidèle sera forcément prospère. D'autres recommandent des vœux de pauvreté pour favoriser la sainteté. Certaines prient Marie. D'autres considèrent que c'est un péché de le faire. Certaines églises permettent la polygamie, d'autres non. Et on pourrait continuer longtemps à énumérer les désaccords entre les églises. Par contre, on ne pourrait citer un seul point de désaccord entre Dieu le Père et Jésus-Christ. Jésus voulait que ceux qui croient en lui soient un, comme lui et son Père. Si le souhait de celui que nous appelons Seigneur nous importe, comment pourrions-nous dire que ce n'est pas grave si les églises se contredisent? Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, nous voyons que le phénomène des dénominations naissait parmi les croyants à Corinthe. Paul a traité ce problème comme étant très très grave. Il commence son discussion de la situation en décrivant le degré d'unité à rechercher. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis, dans un même esprit et dans un même sentiment. » 1 Corinthiens 1, 10. Il n'est pas question ici de masquer les différences en disant qu'au fond, ce n'est pas grave si l'on n'est pas d'accord sur la doctrine. Non. Paul dit que les chrétiens devraient avoir le même langage, enseigner la même chose. Nous voyons par la suite que Paul condamne la pratique des chrétiens de se distinguer les uns des autres par des étiquettes, comme s'il y avait différentes sortes de chrétiens aux yeux de Dieu. « Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? 1 Corinthiens 1, versets 11 à 13. 1 Corinthiens 3, versets 3 et 4. Il semble que l'église de Corinthe a pris au sérieux les reproches de l'apôtre et a cherché à se corriger. Il faut que les croyants de nos jours fassent de même. Mais n'allez pas croire que cette unité se réfère uniquement à l'entente au sein d'une seule assemblée locale. L'apôtre Paul insiste souvent sur le fait qu'il enseignait de la même manière partout où il allait. Il disait souvent des choses comme « C'est ce que j'ordonne dans toutes les églises » 1 Corinthiens 7, 17. « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie » 1 Corinthiens 16, verset 1. Et, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. 1 Corinthiens 14, 33 et 34. Les hommes étant ce qu'ils sont, on ne doit pas s'attendre à ce que ce soit facile de reproduire l'unité qui caractérisait l'église du premier siècle. Même à cette époque-là, il fallait de grands efforts pour la maintenir. En Éphésiens 4, verset 3, Paul exhorta les chrétiens de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Il fallait s'efforcer parce que Satan cherche toujours à semer la division. Jésus a prié que ses disciples soient un, pour que le monde croie que Dieu l'avait envoyé. Satan aussi comprend que si les disciples de Jésus ne sont pas un, s'ils sont divisés, cela empêchera beaucoup de croire en Christ pour être sauvés. Il essaie donc de promouvoir la division et la multiplication d'églises. Ne rendons pas sa tâche plus facile par une fausse conception de l'unité qui confond la diversité acceptable, parce que dans les limites de ce que la parole de Dieu autorise, et la division doctrinale qui n'est pas acceptable. Nous n'avons pas le droit de nous contenter du fait qu'on adore tous le même Dieu, quand en fait on enseigne des idées contradictoires à son sujet.
À qui il est doux, à qui il est beau de voir venir ensemble l'Église unie, un seul troupeau dans la vie. sang.